Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, chers frères, l'Église fête aujourd'hui la solennité de la Vierge Marie Immaculée Conception. Que soy era Immaculada Conception, c'est ce qu'a dit la Sainte Vierge dans le patois de Bernadette, qu'elle ne comprenait pas. C'est ce petit mot magique qui a fait comprendre à son curé, qui ne la croyait pas, que cette jeune fille n'avait pas inventé une histoire abracadabrant. Au contraire, elle était dépositaire d'un secret divin. Je vous invite à répéter cette invocation à Marie, Immaculée Conception, avant même de comprendre, et même je vous conseille de le répéter, afin de pouvoir le comprendre. Pour cette fin, je vais dire deux mots. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'Immaculée Conception ? Et dans un deuxième temps, qu'est-ce que cela signifie pour notre propre vie ? D'abord, qu'est-ce que l'Immaculée Conception ? J'élimine immédiatement une erreur qui traîne dans nos têtes, c'est de penser qu'il s'agit de la virginité perpétuelle de Marie. C'est pas ça dont on parle. Le fait que Marie soit restée vierge avant, pendant et après la naissance du Christ, c'est un autre mystère de l'Église, c'est pas celui que nous fêtons aujourd'hui. Cela n'a rien à voir non plus, on pourrait être trompé à avoir entendu le message de l'ange et la venue du Verbe divin, mais voyez, on n'a entendu que la première partie pour ne pas nous induire en erreur. Il ne s'agit pas non plus de la fête de la conception virginale du Christ, du fait que le Seigneur soit venu dans la chair de Marie de manière extraordinaire, sans le concours naturel d'un homme. Non, il ne s'agit pas de ça. Ce que nous fêtons aujourd'hui, et voilà pourquoi nous avons entendu juste le début de la salutation de l'ange, c'est l'Immaculée Conception de Marie, que nous tirons bien entendu de l'Écriture, que nous tirons de la parole de l'ange, « Tu es comblé de grâce », c'est-à-dire en toi, il n'y a que de la grâce divine, il n'y a que du bien, il n'y a pas de mal, tu es sans péché. Alors, l'Église réfléchissant, honorant Marie, dès le début, a pensé que Marie devait avoir une certaine pureté. Ce n'est qu'avec le temps que nous avons affiné notre idée de cette pureté de la Vierge, c'est le nom que les orthodoxes et que tout l'Orient, bien avant les orthodoxes d'ailleurs, donnent à cette fête qui est fêtée dès le IVe siècle, c'est la pureté de Marie. Les chrétiens se sont très vite rendus compte et ont très vite pensé que Marie devait être préservée du péché. C'est au cours des siècles que nous avons réfléchi, les théologiens, pensé, écrit, débattu, pour savoir quelle était la nature de cette pureté. Vous le savez peut-être, au Moyen-Âge, au XIIe et XIIIe siècle, c'est une question qui fait rage et qui dispute les cœurs de savoir quelle est cette pureté de Marie. La question n'était pas inintéressante, et encore pour nous aujourd'hui, est-ce que Marie est pure parce qu'elle est en dehors de la création ? Est-ce que c'est une déesse venue du ciel et qui dès lors n'aurait pas maille à partir avec le monde ? Ou est-ce que c'est une femme comme une autre, mais que Dieu a voulu, en raison de sa mission, préserver du péché ? Ce discours, cette dispute intéressante et pas sans conséquence pour notre propre nature, je le verrai dans un deuxième temps, eh bien, a fait rage à Paris notamment, et à Saint-Séverin à Paris, si vous traversez la Seine, c'est difficile aujourd'hui, mais vous pouvez aller un autre jour, eh bien, vous verrez à la sortie, sous la clé de voûte, sur la clé de voûte, juste devant la sacristie, il y a deux personnages qui s'embrassent, c'est Anne et Joachim, signifiant par là la position de saint Thomas d'Aquin, que la Vierge Marie est bien née d'un amour humain charnel de ses parents, c'est-à-dire que c'est bien une femme normale. Voilà la position qui s'est affinée pour arriver enfin à l'idée que Marie est l'Immaculée Conception. Et c'est ce que le pape Pie IX, le bienheureux pape Pie IX, proclama le 8 décembre 1854, non pas, comme le pensent les gens étroits d'esprit qu'il a inventé l'Immaculée Conception, c'est qu'il a fini, après des siècles de réflexion, de mettre l'autorité de l'Église sous cette idée que Marie a bien été préservée de tout péché. Voilà ce que nous fêtons, elle est préservée et des traces du péché originel et donc des traces de défection de la nature humaine et elle est préservée des péchés actuels, c'est-à-dire des péchés que tout homme ou toute femme pourrait connaître. Non, elle n'a pas connu cette dégradation de la chair ni de l'esprit en raison de la mission qui devait être la sienne. Pourquoi le Seigneur aurait-il voulu préserver cette femme, comme toutes les autres, du péché? Eh bien, c'est très simple, il l'a voulu, et je fais parler le Concile Vatican II, le document Lumen Gentium, elle a été rachetée de toute faute d'une façon éminente en raison du mérite de son fils et en vue de l'exécution de sa mission. Cela veut dire deux choses. Cela veut dire qu'elle est préservée du péché d'abord par un mérite de son fils. Ça, c'est dur à comprendre pour nous. C'est-à-dire que ce qui lui vaut l'Immaculée Conception, c'est un mérite qui déjà coule de la croix. Mais me direz-vous, la croix vient après. Oui, temporellement, dans notre petit monde à nous, et dans notre petit monde étroit de la temporalité, oui, la croix vient après la conception immaculée de Marie. Mais dans l'éternité de Dieu, où cette croix est inscrite pour toujours, car le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde, et notre salut est toujours présent, c'est ce que nous rappelons à chaque messe, eh bien, cette éternité en Dieu, cet éternel aujourd'hui de Dieu, s'est rendu présent pour Marie au jour de sa conception, où elle était préservée par un mérite qui venait déjà de la grâce de son fils, de la conception durant le péché. Elle est préservée donc de cette dégradation, et c'est en raison de cette mission. Pourquoi ? Parce qu'elle devait recevoir la grâce, elle ne pouvait y mettre aucun obstacle, elle était remplie de grâce. Comblée de grâce, lui dit l'ange, on a du mal à traduire le grec, « Sunné, tu es toute dedans de grâce ». C'est-à-dire, en toi, il n'y a rien d'autre que la grâce de Dieu, rien d'autre que le bien. Plus d'espace pour l'absence de bien, qu'est le mal, le péché, le mal n'est qu'une absence de Dieu et de sa réalisation bonne. Eh bien, en Marie, il n'y a pas d'autre place que pour la plénitude de l'être, la plénitude du bien qui, dès lors, ne fait pas apparaître d'ombre et qui ne fait pas apparaître de manque. Voilà ce qu'est le péché, voilà ce que Marie n'a pas connu. Cette femme a coopéré en raison d'une grâce divine qui était celle de sa mission au salut du genre humain. Elle a déjà, dans sa chair, réalisé ce salut. Elle l'a laissé se réaliser, car ce salut vient de Dieu. Elle y a coopéré. Alors, mon deuxième point sera plus simple en un sens. C'est que il y a deux intérêts pour nous à vous contempler l'Immaculée Conception de Marie. Le premier, c'est de voir que le dessein de Dieu se réalise. Cette nouvelle Ève promise dans la Genèse, cette première promesse que Dieu fait après la chute de l'homme qui devait mourir et mourir dans son péché, cette première promesse que le fils de la femme viendrait écraser la tête du dragon, cette femme nouvelle, cette Ève nouvelle, elle se réalise dans Marie. Marie est comme une nouvelle création, la créature telle que Dieu l'a voulu au début du monde. Marie est la créature parfaite voulue par Dieu. Marie est celle sur qui il n'y a aucune emprise du mal. C'est Don Arbogat, un ancien exorciste, qui disait que le seul nom auquel le diable ne peut jamais résister, c'est celui de Marie, car en elle, il n'y a aucune prise du péché. Le plus grand saint, fut-il le plus honoré, a tout de même au moins commis quelques péchés. Eh bien, pas la Vierge Marie. Son pouvoir, associé à celui du Christ, est rendu plein et entier en raison de cette recréation du monde voulue par Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a voulu avoir besoin de la création. Et pour nous, c'est une nouvelle extraordinaire. Oui, le Seigneur aurait pu nous sauver en descendant des cieux et en nous pardonnant dans sa grande bonté. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Il est venu, il est descendu, il a pris chair de l'humanité, il s'est conjoint cette femme, pour recréer l'humanité, il a voulu avoir besoin d'elle, il a voulu avoir besoin de nous. Voilà ce que nous contemplons dans l'Immaculée Conception de Marie, la coopération enfin pleine et entière de l'humanité à l'œuvre de Dieu. Enfin, nous contemplons en Marie notre propre image purifiée. Ce que nous voyons en elle, c'est ce que nous serons à la fin des temps, à la fin du purgatoire qui peut-être nous attend, quand nous serons enfin au ciel, que nous pourrons voir Dieu face à face, devant qui rien d'impur ne peut tenir, dit l'Apocalypse, quand enfin nous serons nous aussi rendus purs et nets comme au premier jour de la création, quand enfin nous serons vraiment la créature que Dieu a voulu avoir devant lui. Oui, l'Immaculée Conception de Marie, c'est pour nous déjà les arts de la glorification de l'homme dans sa chair et dans son esprit. C'est la promesse qu'enfin, un jour, plus rien de mauvais, plus rien qui soit une absence de Dieu ne pourra avoir connaissance de notre être. Enfin, en contemplant Marie, nous voyons la véritable créature de Dieu, celle que moi aussi je pourrais être. Alors, mes bien chers frères, je vous encourage à invoquer souvent Marie, l'Immaculée, l'Immaculée Conception. Peggy, quelques jours avant sa mort, évoque à un de ses camarades dans les tranchées ce mot admirable et simple. Il lui dit « Tu sais, après avoir beaucoup réfléchi, je pense que tout le salut du monde tourne autour de la conception immaculée de Marie. » Oui, à travers cette vision de Peggy, cet éclair du ciel qui lui est donné peu de temps avant de le voir lui-même, ce ciel, eh bien, il y a la porte d'entrée du ciel. C'est peu de choses, mes bien chers frères, c'est un petit trou pour notre intelligence. Essayez de vous y humilier, essayez de passer par cette humilité de Marie qui lui a valu d'être vraiment la créature de Dieu. Amen.